La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Dans certaines strates de nos sociétés en particulier, des personnes, des couples, des familles ont pris l'habitude d'échanger leurs maisons, leurs appartements pendant les vacances. Pour cela, ils prennent le temps et la peine de remplir sur des sites spécialisés des fiches descriptives de leur domicile auxquelles ils ajoutent un choix de photographies destinées à saisir l'esprit du lieu. Ce sont ces fiches qu'a minutieusement étudiées Emmanuel Pedler. Il a aussi rencontré les hommes et les femmes des couches moyennes supérieures qui se cachent, ils n'apparaissent jamais sur les photos, derrière les présentations de chez soi qu'ils postent sur le web. Au terme d'une enquête minutieuse qui relève de la sociologie d'où il vient, mais aussi de l'anthropologie et de l'histoire, Emmanuel Pedler contribue à élaborer, en suivant les pas nuancés d'Irving Goffman, une autre science sociale de la culture, en nette rupture avec les théories légitimistes encore largement dominantes. Emmanuel Pedler, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'études à l'École des études en sciences sociales au centre Norbert Elias à Marseille. Vous avez travaillé depuis de très longues années sur la culture, sur les pratiques culturelles, sur la musique, sur les institutions culturelles. Mais en parallèle de ces travaux, vous vous êtes toujours aussi beaucoup posé de questions épistémologiques. Et ce livre que vous publiez aux éditions de l'EHESS, L'esprit des lieux, réflexion sur une architecture ordinaire, au fond, reflète cette double intérêt, cette double préoccupation à la fois pour la culture entendue dans un sens large et pour les questions d'épistémologie, les questions théoriques des sciences sociales posées là en l'occurrence s'agissant de sociologie ou plutôt, j'ai envie de dire, de sciences sociales de la culture. Mais partons de cette enquête que vous avez menée, une enquête sur la manière dont des gens qui échangent leur domicile, une pratique qui est devenue très courante aujourd'hui et qui a été favorisée avec Internet, la façon dont ces gens sont amenés du coup à présenter leur chez eux, leur chez soi, et donc à mettre en valeur au fond cette architecture ordinaire, cet habitat qui est évidemment une donnée culturelle intéressante. Pourquoi avoir décidé de mener l'enquête sur cette pratique-là, à partir, au fond, de cette pratique-là, Emmanuel Pedler?
Alors justement, je voulais, cette fois-ci, en rupture avec des pratiques très régulières de la sociologie de la culture, s'intéresser aux institutions, aux lieux où se diffuse la culture, d'aller d'une certaine façon voir dans les ateliers, si je peux dire, des amateurs ordinaires que nous sommes, ou des familles, des individus ordinaires, pour voir comment s'usine un certain rapport à la culture. Et la difficulté, d'une certaine manière, c'était de concevoir et de cadrer une enquête, parce que pas facile de le faire. J'avais un bel exemple précédent qui est celui de l'ouvrage de David Hall qui est déjà ancien, qui s'appelle Inside Culture, qui n'a pas été traduit en français mais on dirait au cœur de la culture, c'est d'ailleurs un joli titre. Et cet ouvrage-là était un ouvrage tout à fait intéressant puisque au fond il découpait non plus, il ne s'intéressait pas aux institutions culturelles mais il s'intéressait à New York sur différents quartiers où justement Hall en sociologue va aller voir comment c'est strates sociales très différenciées qu'il a déjà découpées hein, scrupuleusement dans des zones et dans des quartiers.
De manière géographique, oui.
Voilà, géographique. On a Upper Side avec justement des hôtels particuliers, puis de l'art contemporain qui à l'époque explose à New York. Enfin, et après il y a de la différenciation jusqu'aux working classes. Et donc, en fait, ce que fait Hall, c'est d'aller voir quel est le rapport à la décoration et à la culture dans ces lieux.
Comment la culture, au fond, investit les lieux domestiques?
Tout à
fait. Les lieux d'habitat de la population.
Absolument. Et donc, l'idée, c'était de voir en contre-plongée comment la culture se déploie de cette façon-là. Alors, ce qui était à la fois passionnant dans le livre et à la fois décevant, et d'où le choix de mon objet, c'était précisément, ce qui était passionnant, c'est ce cadrage où on tirait un certain nombre de conclusions. Et ce qui était beaucoup plus embarrassant pour moi dans la dimension, disons, d'anthropologie de la culture, c'est précisément que, d'abord, on partait de l'idée qu'il y avait des boîtes étanches, c'est-à-dire des classes, qu'il y avait des registres d'action, par exemple décorer, avoir un rapport à l'esthétique, comme deux choses qui n'entretiendraient aucun lien, mais qui seraient séparées, au fond, qui vivraient leur vie de manière séparée. Alors ça, ça me gênait beaucoup, puisque précédemment, les observations que j'avais pu faire très concrètes me montraient que c'était beaucoup plus compliqué que ça, et qu'au fond, les choses se mélangent. Par exemple, un rapport à esthétique se nourrit d'un rapport à la décoration, et lorsqu'on a quelqu'un qui nourrit une expérience et a ensuite une carrière de spectateur ou d'amateur d'art, de galerie, etc., il modifie son rapport intime à un certain nombre d'objets et inversement, il modifie ce qu'il va regarder dans les musées. Donc, ça vit pas séparément, ça vit ensemble. D'où l'idée de se dire, il faut surtout pas que le sociologue parle d'abord. Il faut que le sociologue laisse les individus s'exprimer, dire ce qu'ils sont, déclarer, au fond, une certaine fiche d'identité de ce qu'ils sont, culturellement ou autrement, pour simplement voir comment ça se déploie. Alors, ce qui était très intéressant dans ces sites d'échange...
Oui, parce que là, vous partez d'un matériau qui sont donc les fiches de présentation des maisons ou des appartements qui sont à échanger, hein, oui, sur cette bourse. Ouais. Et au fond, donc, vous avez des fiches qui ont été remplies par ces gens, avant même que le moindre sociologue... leur pose la moindre question. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant comme matériel. Ces gens se sont trouvés dans la situation de devoir, de façon un peu artificielle, produire ces fiches, mais dans un but très pratique, hein, pour eux. Et là, on a un matériau formidable, puisque au fond, ça permet aux sociologues de commencer à travailler avant même de poser une première question. Question absolument. Qui viendra, puisque après, vous absolument. Avez décidé de les rencontrer, ces gens.
Après, je les ai rencontrés naturellement, mais le démarrage est passionnant dans la mesure où, justement, cette déclaration, elle est libre d'une certaine façon, et qu'on sait que le fait de créer une enquête pose des problèmes absolument énormes, puisque lorsqu'on va interroger quelqu'un dans un musée, en lui disant, bon, vous êtes, quel est votre rapport aux arts plastiques, à la décoration et autres, évidemment, la réponse va être, c'est au centre de ma vie, etc.
Or, ici, il y a toujours un artefact, enfin, dans ce genre de situation d'enquête.
Et l'inflation de déclarations par ces biais-là, absolument colossale, et on le sait, d'ailleurs, on le mesure précisément, et d'une certaine manière, ce qui est très intéressant, c'est qu'un individu, par exemple, qui vit dans un centre urbain, il va devoir déclarer, il y a un musée à 800 mètres de chez moi, je vous descendais en un quart d'heure, vous êtes à la Criée, par exemple, si c'est dans le cas de Marseille, où il va dire, ou peut-être les deux, et c'est ça qui est intéressant, il y a une piscine où il y a la mer qui est à 10 minutes. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui structure plus profondément le rapport à la culture et en quoi ce rapport nourrit d'autres registres.
Donc, en gros, est-ce que parmi les points forts de ce qui est proposé à l'échange, donc est-ce qu'il y a un certain nombre de caractéristiques culturelles, d'équipements, de facilités à accéder à tel ou tel musée, théâtre, festival, s'il s'agit d'une absolument. Période. Est-ce que ces gens mettent en avant, au fond, les ressources culturelles associées géographiquement, en particulier, à leur domicile?
À leur domicile, et pour lesquels, d'ailleurs, il y a souvent des traces, puisque des catalogues d'expositions sont là, où, au fond, un certain nombre de traces sont sédimentées dans les lieux. Et donc, c'est ce rapport-là qui va être immédiatement perceptible, et lorsque justement on fait l'enquête, on se déplace, ou même quand on fait soi-même un échange, on est au cœur même du dispositif, eh bien on peut observer toute l'épaisseur, disons, de cette relation et de cette pratique. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est très déflationniste, c'est-à-dire que, je le cite dans le chapitre 8 notamment, mais les chiffres sont très bas, parce qu'au fond, on est dans une population sursélectionnée, puisque j'ai choisi des upper middle class, des classes moyennes supérieures, disons les catégories 30 de l'INSEE, et en plus, possédant la plupart du temps des maisons, des appartements d'un certain prix. Donc on est très sélectif, et malgré tout, le taux de personnes qui se déplacent est extrêmement faible, moins de 20%, et qui, pas se déplacent, que signale qu'il y a un théâtre pas loin, qu'il y a un musée, etc., est extrêmement faible. Et donc, c'est ce premier résultat qui est très intéressant, c'est que ça fait diminuer, il y a une déflation de la déclaration, et en même temps, le deuxième point qui est absolument passionnant, c'est qu'on peut observer que les rapports expressifs, les rapports à la culture, les rapports qu'il s'agisse de décoration, mais pas seulement, aussi de mettre en photo son lieu, etc. Ces rapports-là sont beaucoup plus dense et important, et au fond qu'il y a un travail d'esthétisation qui va bien au-delà de cet exercice appliqué qui consiste à dire je sors au musée, je fais telle et telle chose, je lis tel livre, etc.
Travail de stylisation, dites-vous en reprenant une expression d'Irving Goffman.
Absolument. Et ce travail de stylisation est extrêmement dense, on le voit se décliner sous différents régimes, et on peut au fond voir toute la complexité, par exemple, d'un rapport tout simplement aux toiles, un rapport à des toiles qui sont posées chez soi. Par exemple, chez David Hall, l'idée était simplement, est-ce que vous possédez de l'art abstrait chez vous ? Donc, c'est une question, une enquête se fait, dans certains cas, c'est plus ou moins documenté, mais c'est comme si les espaces de la maison étaient des espaces totalement horizontaux, c'est-à-dire rien n'a des registres particuliers. Alors, lorsqu'on regarde comment cela fonctionne, eh bien, on voit que certaines toiles qui sont dans les espaces que j'appelle semi-publics de la maison, c'est-à-dire qui sont plus ouverts, qui sont en quelque sorte des sortes de sas entre le monde privé et le monde public, eh bien, dans ces lieux-là, il y a des toiles dans lesquelles, pour lesquelles les individus souvent ne savent même pas d'où elles viennent, se souviennent plus, n'en parlent jamais, etc. Alors que ils vont réserver dans certains lieux de leur maison, par exemple dans les chambres, des toiles abstraites, par exemple, pour lesquelles ils ont justement un commerce régulier, etc. Donc, on voit bien ici que c'est toute cette déclinaison de ritualisation, j'utilise donc le terme d'hyper-ritualisation dans le sens goffmanien, de ritualisation des espaces qui, au fond, éteint l'œuvre pour qu'elle ne soit plus une œuvre, mais qu'elle soit simplement un symbole. Et d'autre part, des rapports très différents qui vont faire que les individus vont, par exemple, déplacer des toiles, vont les essayer, vont les placer en vis-à-vis. En quelque sorte, ils vont faire quelque chose. Ils vont avoir une action sur l'ensemble de ces objets. Et donc, c'est cette action qui est observée de très près, puisque, d'une certaine manière, ils s'instrumentent, ils ont des instruments de leur pratique. Et les instruments de leur pratique, il faut les regarder et les décrire dans le détail.
Là, tout à l'heure, vous disiez, finalement, pénétrer l'atelier du spectateur. Au fond, là, en vous entendant, on se dit, c'est la galerie du spectateur. C'est-à-dire que le spectateur est un artiste lui-même, il est aussi un galeriste. Il est, au fond, chacune des figures de ce monde de l'art. C'est aussi ce genre d'approche de la sociologie de la culture qui vous intéresse, c'est-à-dire ne pas catégoriser par avance les positions, mais voir comment les acteurs sociaux endossent véritablement différents rôles et ont un rapport extraordinairement fin, en règle générale, à la culture.
Voilà, c'est donc toute cette déclinaison-là qui est en général aplatie lorsqu'on essaie de faire une enquête sur institution où on n'arrive pas à voir cette épaisseur-là et que l'on voit apparaître dès lors sur des registres qui sont d'une certaine manière pas seulement exclusivement esthétiques et qui déclinent des rapports qui peuvent être aussi pratiques et qui font d'ailleurs, ce trait qui me semble très intéressant, qui font qu'il y a une articulation entre différents registres. Par exemple, il y a une articulation entre ce qui est nécessaire, ce qui est fonctionnel et ce qui est esthétique. Or, à un certain moment, les sociologues avaient essayé d'opposer un goût du nécessaire et puis un goût, au fond, de cette chose évanescente, profonde, idéale, etc., qui serait le rapport à l'art.
Alors que les designers sont bien placés pour savoir que cette distinction n'a pas grand sens.
Ça va ensemble, ça s'articule, et c'est précisément dans cette articulation que l'on voit comment les individus utilisent tel ou tel outil pour se placer et pour, au fond, se positionner face à cet objet culturel qui est, au fond, une énigme. D'une certaine manière, c'est un peu comme, à chaque fois, une expérience de terrain nouveau, de terre nouvelle, et il faut, au fond, domestiquer ces mondes un peu étranges, éloignés, qui sont pas forcément dans les habitudes des individus, et qui, peu à peu, vont être domestiqués. Je pense que le terme domestiqué est ici bienvenu. Ils vont domestiquer ces objets-là pour les faire rentrer dans leur pratique. Alors, il me semble que cette dimension va en même temps qu'une autre dimension qui est pour moi sociologue importante, parce que je suis aussi sociologue, qui est précisément que ça va ensemble avec l'idée même de différenciation sociale ou de stratification sociale. Et là, dans ce secteur-là, on a à peu près le même résultat lorsqu'on observe, disons, bottom-up, de bas vers le haut, la société, c'est qu'on se rend compte que si on ne pose pas a priori l'existence de strates, pour moi, il y avait simplement une population assez homogène face au CSP, mais aux professions, pardon, Et je ne savais pas plus que ça. Dès lors qu'on ne les différencie pas, eh bien, on voit apparaître, au fond, des modulations dans les rapports, justement, dans leur façon d'exister. Et par exemple, l'idée même qu'il existerait des classes sociales a priori posées là, ne se pose plus dans ces termes. Et j'ai une expérience qui était tout à fait passionnante dans l'enquête, c'est que il y avait quelques upper classes qui s'étaient égarés sur le site, si je peux dire, qui étaient venus pour explorer la chose et voir, enfin j'entends upper classes, des gens ayant des revenus de leurs capitaux, capables d'une force économique tout à fait considérable, et ayant des modes de vie assez différenciés. Et donc je me disais, bon, c'est très intéressant. Est-ce que c'est un continuum, quelque chose continuiste, hein, et dans lequel il n'y a pas de rupture? Et précisément, à un moment donné, l'observation que j'ai pu faire, c'est qu'aucun ne passait à l'acte de l'échange. Et donc, d'une certaine manière, il redéfinissait ce qui était le « nous » et le « eux » en disant « je ne partage pas ça ou je ne peux pas y aller ». Alors, le langage était plus compliqué, mais donc on voyait ici apparaître subjectivement ce que ça voulait dire être dans une classe ou dans une autre. Parce qu'avant, il était impossible de pouvoir l'affirmer et de dire, au fond, cette fraction plus économique, ingénieur, ou cette fraction plus intellectuelle des classes moyennes supérieures, est-ce qu'elles font partie d'un ensemble ou pas ? Personne ne le sait. Et on le sait à partir du moment où les uns et les autres subjectivement se projettent en disant j'appartiens, mais le problème c'est que personne ne le dit, puisque c'est simplement réactivement que la position par acte, le positionnement par acte est venu en disant je ne participe pas, mais il n'y avait pas au fond de discours explicite disant j'appartiens à telle classe sociale.
Donc on comprend mieux votre démarche, au fond on induit, vous arrivez à induire qu'il y a cette stratification, qu'il y a finalement des coupures à certains moments, mais vous y arrivez en faisant une hypothèse qui, à l'inverse, elle, est continuiste. C'est-à-dire que vous arrivez à montrer des discontinuités, mais pour pouvoir les montrer, il ne s'agit pas de les décréter au départ, il s'agit de les mettre en évidence. Et pour les mettre en évidence, il faut partir de ce que vous appelez une hypothèse continuiste dans le rapport à la culture. Qu'est-ce que vous entendez par là, Emmanuel Pellet ?
Alors justement, c'est là un des points, c'est un chapitre du début du livre qui est peut-être un peu plus épistémologique que les autres, mais qui est très important, c'est-à-dire que d'une certaine manière, pour la sociologie française notamment, il y a eu un moment où justement, sous sans doute l'impulsion très très forte et imposante de Lévi-Strauss, l'idée qu'il pouvait y avoir des cultures séparées, autonomes, bien installées, et qui d'une certaine manière seraient séparées les unes des autres.
On pouvait ranger au fond dans un grand fichier, hein, qui était le Human Area Files, donc dans des tiroirs, on rangeait les cultures dans des tiroirs, très très matériellement.
Très matériellement, absolument. Et donc cette idée qu'il existait, par exemple, une économie archaïque puis une économie moderne, eh bien, c'est quelque chose qui est posé là, comme au fond un a priori. Alors la question, c'est qu'on peut le faire, on peut partir de ça, on peut dire voilà, il y a des cultures populaires, il y a des cultures savantes, et on les sépare. La question, c'est qu'est-ce qui est le plus coûteux en termes d'observation ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous coûte le plus, au fond, d'opacité, ou nous amène à ne pas voir ? C'est sans doute de poser a priori qu'il y a des coupures là où on ne sait pas s'il y en a. Et donc, simplement, la question est de se dire, pensons plutôt à l'imbrication, au fond, à la fois des groupes sociaux et des strates, surtout dans une période comme la nôtre, où historiquement on est dans une période de très grand renouvellement, sans doute des fractionnements, c'est-à-dire que ça se renouvelle dans les classes moyennes, mais ça se renouvelle dans les parties hautes de la société, et dans ces périodes-là de renouvellement, ne posons pas qu'il y a a priori des barrières, mais observons ce qui se passe. Alors, l'hypothèse continuiste, elle s'étend à tous les registres. Elle considère qu'il faut voir ce qui se passe et non pas déclarer a priori qu'une culture populaire est d'essence différente d'une culture savante. Si l'observation fait apparaître des différences structurelles fortes, si, comme dans le cas ici des upper classes et des classes moyennes supérieures, il y a une différence de positionnement ou d'implication sociale, alors évidemment, on en vient à cette conclusion. Mais l'hypothèse de la discontinuité est beaucoup trop coûteuse épistémologiquement, me semble-t-il.
Alors c'est, pour autant, on suit votre raisonnement, c'est pas toujours facile à faire tant on est, je dirais, pétri d'une vision légitimiste de la culture et de manière de faire. Alors évidemment, vous avez cité Lévi-Strauss, on pourrait citer Bourdieu, dont la sociologie de la culture reste très prégnante. Et au fond, même ceux qui ont fait la démarche de se départir de cette vision légitimiste, et je pense à Jean-Claude Passeron et Claude Grignon, qui ont écrit ce livre important, Le savant et le populaire, même eux, il arrive à certains moments dans ce livre qu'ils dérapent en quelque sorte. Et vous isolez un passage du savant et le populaire que pour montrer au fond que c'est difficile de tenir véritablement cette hypothèse continuiste, parce qu'ils imputent à des acteurs sociaux finalement des raisonnements dont on ne sait rien, c'est à propos desquels ils n'ont pas mené d'enquête et ils vont un petit peu vite en besogne en quelque sorte.
Absolument. Et la difficulté là est précisément l'épaisseur de l'enquête pour chaque cas que l'on va étalonner, pointer, analyser. Dans le cas d'espèce, si on déclare que pour un groupe social, le fait d'utiliser des tuiles anciennes est en fait un choix qui est d'une certaine manière contre le choix fonctionnel d'avoir un toit qui ne fuit pas, et que donc il y aurait le goût d'un côté du nécessaire, de l'autre coup un goût de l'esthétisation, dans ce cas-là, il faut aller jusqu'au bout de la description et de l'observation de la manière dont ça se passe et ça s'arbitre. Et il suffit d'avoir des cas épais, comme c'est le cas dans mon enquête, pour se rendre compte que l'obsession de la fonctionnalité traverse l'ensemble des groupes, et donc ça n'exclut pas d'avoir des objets beaux, qu'ils soient totalement fonctionnels, et c'est une manière qui, ici, est héritée d'une technique classique de l'enquête qui consiste à prendre des indicateurs. Et le problème des indicateurs est un problème redoutable, parce que, comme on disait tout à l'heure, par exemple, sur l'opposition rapport à la décoration et rapport esthétique, on va prendre quelque chose de totalement ténu, par exemple, étaler une ou deux fois au musée, pour dire, voilà, ça, il y a une pratique culturelle. Et puis, on va prendre un autre trait, et puis, on va faire une carte statistique en disant, ben, ces deux traits sont en corrélation. Le grand problème, c'est que la corrélation, elle est décrétée. C'est un artefact. Or, si on prend par des cas, on se rend compte que ce trait va avec l'autre ou ne va pas avec l'autre, mais ce n'est pas parce que statistiquement ils sont proches l'un de l'autre et que dans ces groupes ils sont plus fréquents, bien que ces deux choses vont ensemble. Et donc cette épaisseur-là, elle n'est pas seulement une complexité plus grande dès lors qu'on s'approche un peu des objets, elle est aussi une complexité des processus que chaque individu met en œuvre pour, au fond, avoir un rapport à la culture et qui, d'une certaine manière, donne une vie aux matériaux qu'on traite, beaucoup plus grande que ces photographies, ces artefacts qui sont un peu fatigants parce qu'ils commencent à se répéter, on a à peu près toujours les mêmes schémas et, d'une certaine manière, on n'apprend pas grand-chose de ce qu'est ce rapport à l'esthétique, à la culture.
Alors ça vous conduit aussi à prêter attention à certaines pratiques ou à certains discours. Je pense en particulier de ce que vous faites avec André Putman. Vous regardez de près ce que dit André Putman de sa pratique de décoratrice. D'ailleurs, davantage cette phase-là, plutôt que la phase suivante qui va être celle de la reconnaissance muséale d'André Putman, qui va théoriser rétrospectivement cette pratique. Mais le discours qui accompagne la pratique au moment où cette pratique se fait est très intéressant à propos de la décoration, parce qu'au fond, il rappelle l'attitude, les pratiques ordinaires dans l'architecture ordinaire de tout un chacun.
Absolument. Et l'exemple de Putman m'avait beaucoup frappé dans la mesure où, effectivement, il y avait deux choses distinctes. Sa démarche, et notamment sa démarche plus ancienne, lorsqu'elle a commencé sa carrière, avec des positions qui étaient de pouvoir décorer des lieux, comme un hôtel new-yorkais, avec des moyens assez limités. Et cette démarche qui était d'une certaine façon de continuité entre ce que le regard apporte dès lors qu'on veut réaménager un lieu sans avoir des moyens absolument extraordinaires. Et d'une certaine manière, à cette époque, elle dit, c'est pas seulement parce qu'on a des matériaux riches, des espaces immenses, etc., que l'on arrive à esthétiser un lieu. C'est précisément parce qu'on le regarde et qu'on le travaille, y compris avec des matériaux ordinaires. Par exemple, elle travaille dans cet hôtel avec des...
Elle est contactée parce qu'elle fait des salles de bain sans marbre.
Voilà, tout à fait. Et puis avec des carreaux, alors elle fait ce choix incroyable qui est de prendre du noir et blanc en disant d'une certaine manière, ça va casser cette dimension qui est très compliquée à mettre en œuvre, qui est la dimension colorée. Et donc, avec des moyens extrêmement faibles, elle se met à faire quelque chose qui est esthétisé, d'ailleurs, qui sera repris dans l'exposition qui avait eu lieu à Paris, à l'Hôtel de Ville, où la salle de bain avait été totalement reconstituée, où effectivement, c'est un modèle du genre. Alors, effectivement, comme vous le disiez, ensuite, il y a, je dirais, le travail de légitimation de sa carrière, qui après est une autre affaire, puisque dès qu'il y a une mise en exposition de catalogue, il y a un travail qui consiste à, en quelque sorte, gommer tout ce qui était les échafaudages qui étaient autour du bâtiment, de ne pas montrer quels étaient les cheminements des acteurs, et en ce sens, dans les enquêtes, développées dans un espace domestique, mais je fais actuellement des enquêtes sur des théâtres ou des lieux de culture, ce qui m'intéresse énormément, c'est d'aller voir les acteurs eux-mêmes, tous les acteurs, les équipes qui montent, qui organisent, qui les éthiques de techniciens, etc., pour voir comment ces objets se configurent, se mettent en œuvre. D'une certaine manière, tout ce qu'on sort du cas pour aller ne regarder au fond qu'un spectacle contribue à créer au fond des dynamiques qui sont très singulières à chaque fois et dont il faut pouvoir rendre compte empiriquement.
C'est-à-dire, au fond, bien regarder la salle de bain de Putman, c'est aller dans cet hôtel à New York, c'est évidemment la voir dans les conditions de l'hôtel de ville à Paris. Il n'y a plus aucune dimension fonctionnelle à cette salle de bain. Personne ne va aller prendre sa douche dans une exposition. Au fond, on pourrait résumer les choses ainsi, recontextualiser toujours les pratiques culturelles.
Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que les amateurs ou les individus qui se pressaient, ils étaient très nombreux à l'exposition, peuvent ensuite approprier, utiliser certains des dispositifs qui étaient là pour essayer de les copier. Et j'ai beaucoup d'exemples dans les matériaux que j'ai accumulés de personnes qui, d'une certaine manière, s'inspirent pour faire quelque chose qui, évidemment, n'aura pas de cotation dans le marché de l'art. Ce sera pas un objet signé Putman,
mais ce sera leur salle de bain.
Et qui s'inspire de cela. Et ça veut dire, au fond, une manière de faire rentrer cet esprit là qui vient plutôt du monde, disons, muséal ou en tout cas de la décoration très savante, pour le faire rentrer et le mettre en œuvre dans un espace domestique. Et là, c'est une réussite magistrale de la création ou de l'œuvre qu'a pu déployer Putman. C'est un bel exemple de passage, disons, dans l'espace domestique.
Merci beaucoup Emmanuel Pedler. Je rappelle le titre de ce livre, L'esprit des lieux, réflexion sur une architecture ordinaire, une autre façon d'enquêter du bas vers le haut sur la culture, au fond, dans cette hypothèse continuiste, comme vous dites, qui est aussi un livre important, je trouve, par les enjeux théoriques qu'il déploie et qu'il propose pour faire un petit peu autrement de la sociologie et dans l'anthropologie de la culture. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Catherine Donnet, à la technique Bernard Laniel, à la réalisation Jean-Christophe Francis. Et dans quelques instants, c'est Étienne Klein que l'on retrouve sur l'antenne de France Culture pour la conversation scientifique.